Radio Campus cette année, c'est Wiz.
Je suppose que ça va embêter beaucoup de gens.
Monsieur le Président, il compte bien.
J'arrive à croire qu'elle me comprend quelquefois. Et je me comprends pas moi-même.
Du rap.
Bon, 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 bon.
Toutes les musiques des tropiques. Une heure de musique atmosphérique.
Sur le 88.3.
Bienvenue dans ESS 117, l'émission de l'actualité de l'économie sociale et solidaire en région Centre-Val-de-Loire, toujours en partenariat avec la CRES Centre-Val-de-Loire. Bonjour Manon Bongo.
Bonjour.
Alors on le rappelle, tu es chargée de mission sensibilisation pour la CRES Centre-Val-de-Loire. Bonjour Bernard Monguillon.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Reconstruire Ensemble, une régie de quartier située à Chartres, et vous travaillez l'insertion socio-professionnelle par le biais de services de proximité, du réemploi, d'ateliers, d'animations culturelles favorisant le mieux vivre ensemble. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Alexandre Bréchet, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est toujours un plaisir de t'accueillir au micro de Radio Campus. Alors on te connaît directeur adjoint de l'Astrolabe, bien sûr, mais tu es également administrateur de la CRES Centre-Val-de-Loire. Tu es élu au conseil d'administration.
Tout à fait.
Et alors aujourd'hui on parle du mois de l'ESS, puisque novembre est depuis des années consacré en effet par les acteurs de l'ESS à la valorisation de leurs actions ou bien à la sensibilisation à l'ESS pour tout le public en fait.
Ouais.
Alors Manon, peut-être peux-tu nous parler davantage du mois de l'ESS en région Centre-Val-de-Loire. Alors qu'est-ce que c'est que le mois de l'ESS? À quoi c'est destiné en fait?
C'est ça, comme tu viens de le dire, le mois de l'ESS qui a lieu tous les ans au mois de novembre est un rendez-vous régional, mais aussi national, de la promotion en fait, des initiatives locales, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Au niveau national, on parle de plus de 2000 événements annuels. Et au niveau régional, on est à une moyenne de 60 événements, du coup, des acteurs de l'ESS et de l'écosystème, de tout l'écosystème en fait, de l'économie sociale et solidaire, qui vont se mobiliser afin de mettre en avant, mettre en lumière leurs initiatives, leurs projets de développement territorial autour justement de l'économie sociale et solidaire. Dans des domaines qui sont très variés, donc ça peut être de l'éducation populaire, ça peut être dans le domaine de la culture, du sport, de la formation, du médico-social. Vraiment faire en sorte que le grand public puisse comprendre concrètement ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, par le biais aussi de différentes actions. Donc ça peut prendre la forme d'événements tels que des portes ouvertes. Le mois de l'ESS, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un outil d'animation territoriale qui permet non seulement d'informer le grand public, mais aussi de le sensibiliser aux valeurs de l'ESS et aussi de valoriser toutes les structures de l'ESS. Et voilà, il a un double objectif, dont je vais laisser Alexandre du coup expliquer ce double objectif.
Oui, alors le but de le mois de l'ESS, c'est vraiment d'améliorer la visibilité de l'économie sociale et solidaire auprès du grand public. L'ESS irrigue un peu toute la société, tous les secteurs de l'économie. Malheureusement, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, puisque ce n'est pas à proprement parler un secteur économique, c'est plutôt une manière d'entreprendre qui peut se manifester dans différentes activités. Le secteur associatif que tu as largement évoqué, puisque à travers le sport, le médico-social, etc., ou la culture, mais aussi l'industrie représentée par les coopératives, mais aussi ça peut être le secteur bancaire, les assurances avec les mutuelles. Donc ça, c'est l'idée, c'est vraiment d'informer, sensibiliser, améliorer cette visibilité, parce que les gens, des fois, ne savent même pas qu'ils profitent des services de structure de l'ESS. Et puis aussi, l'idée, c'est de fédérer les acteurs de l'ESS autour d'un moment fort dans l'année, parce que, finalement, les acteurs de l'ESS, même entre eux, se reconnaissent et se fédèrent depuis pas si longtemps que ça. Il y a des secteurs qui sont très organisés depuis longtemps, mais d'autres moins. Et les gens, on a besoin aussi de créer un petit peu un sentiment d'appartenance à un même mouvement économique, un même mouvement de transformation de la société, parce que ça, c'est quelque chose auquel on croit très très fort au sein des CRES. Et donc là, un événement commun qui va permettre un peu de rassembler toutes les énergies à travers ce que tu disais, des conférences, des manifestations, mais aussi des moments festifs où on va partager des choses ensemble. Et ben, ça permet de se créer une identité commune et puis de se renforcer, quoi. Voilà, de se dire voilà, tous ensemble, on va arriver à faire des choses. Donc c'est important au niveau collectif. Ça permet aussi, d'un point de vue aussi individuel, de gagner en visibilité. C'est-à-dire que les gens qui inscrivent leurs événements dans le mois vont pouvoir peut-être faire mieux connaître aussi leurs activités, ce qu'ils font tout au long de l'année, alors que ce soit auprès des gens sur leur territoire, mais aussi des élus de la collectivité territoriale, d'institutions, d'autres entreprises du secteur qui ne les connaissent pas forcément, mais avec qui ils travaillent. Donc il ne faut pas hésiter effectivement à venir participer à ce grand moment fort de l'année pour montrer votre l'engagement des gens dans l'ESS, avec aussi cette année un message. Alors tous les ans, en fait, le mois de l'ESS a une thématique, enfin en tout cas il y a un petit slogan, un petit sous-texte un petit peu pour orienter l'année. Et donc cette année en région, alors je reprends les notes, c'est pour une société plus égalitaire et écologique dans notre région. La dimension environnementale, en fait, cette année est vraiment mise en valeur. C'est assez important. Puisque aussi ça correspond, d'ailleurs même pour nous en région centre, Val-de-Loire, pour la CRES, un temps assez particulier, puisqu'on a depuis l'an passé très fortement inscrit la dimension de la transition environnementale dans l'action de la CRES. C'est-à-dire que depuis, on va dire historiquement, l'ESS a cette notion d'économie sociale et solidaire. Donc effectivement, voilà, le social et solidaire est vraiment au cœur des préoccupations. Et la dimension environnementale était un petit peu, était présente en fait depuis très très longtemps dans l'ESS. Et Eric, depuis très très longtemps, la plupart des structures qui sont très très sensibles à cette question. Mais là, il y a vraiment eu le choix, la volonté de le mettre en avant et d'en faire une thématique forte et d'affirmer le fait que l'ESS est un outil d'une transition économique, mais aussi d'une transition environnementale, et que nous, on pense que justement, ce sont les acteurs de l'ESS qui sont les meilleurs pour porter la logique de la transition environnementale, mieux que d'autres acteurs économiques inscrits dans une autre forme d'économie capitalistique.
Pourquoi ? Parce que ce sont des initiatives nouvelles, parce que les entreprises de l'économie sociale et solidaire, elles sont davantage innovantes, en fait ?
Alors, nouveau, non, parce que l'ESS, c'est très vieux, hein, les coopératives, ça a plus de 100 ans, enfin, c'est pas les associations aussi, donc en soi, on peut pas dire que la forme de l'ESS soit nouvelle. Innovantes, oui, le sont, mais je pense que dans les secteurs marchands, il y a aussi des gens qui innovent, hein, on va pas non plus dire, on innove peut-être différemment, c'est peut-être une autre manière d'innover. Il y a peut-être plus une question d'innovation sociale aussi, qui se joue dans les structures de l'ESS, mais on pense surtout que c'est aussi le modèle économique même des structures de l'ESS qui est en rupture avec une forme d'économie d'accumulation du capital qui est basée sur l'extractivisme, sur tout un tas de choses qui ne sont pas très bonnes pour l'environnement, qui ne mettent pas forcément aussi au cœur de leur projet l'humain. La préoccupation, elle est principalement économique, elle n'est pas forcément sociale ou sociétale, ce qui n'est pas le cas des entreprises de l'ESS. Donc forcément, ça conduit à des choix différents à des moments. On pourrait citer un acteur, les acteurs bancaires très très marchands qui financent un petit peu tout et n'importe quoi. En général, les acteurs bancaires de l'ESS sont quand même un peu plus attentifs à savoir ce qu'ils financent, et notamment des investissements moins carbonés, etc. Donc c'est un choix. C'est presque un choix de société aussi qu'on offre aux gens. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut inviter aussi tout à chacun à réfléchir à vers qui il va se tourner au moment où il devra faire des choix, de dire quel pourrait être mon fournisseur pour telle prestation, où est-ce que dans quelle banque je mets mon argent, à quel type de service je recours, etc. Il y a certainement des acteurs de l'économie sociale et solidaire autour de vous qui peuvent vous permettre d'avoir des alternatives à d'autres types d'entreprises et peut-être vous dire que votre argent sera mieux employé ou ne viendra pas, continuer à alimenter un système qui est peut-être néfaste pour la planète.
Donc voilà les objectifs, les grands défis en fait de la stratégie de la CRES pour les années à venir, hein, jusqu'en 2025 au moins. En effet, le mois de l'ESS fait partie en effet de ces moyens de sensibiliser le public à ces grands défis qu'on est tenu de relever maintenant. Le mois de l'ESS en région Centre-Val de Loire, on le rappelle, hein, c'est au mois de novembre. Alors, il faut inscrire son événement. Si on a envie, en effet, si on est une structure de l'ESS et qu'on a envie de faire partie, en effet, de cette grande aventure du mois de l'ESS, il faut s'inscrire. Combien de temps auparavant inscrire son événement?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mois de l'ESS est ouvert non seulement aux acteurs de l'ESS, mais à tout l'écosystème de l'ESS. C'est-à-dire que si vous êtes une collectivité territoriale qui souhaite mettre en avant, du coup, l'économie sociale et solidaire au sein de votre territoire, vous êtes bien évidemment les bienvenus pour inscrire un événement durant le mois de l'ESS. Alors, pour ce faire, il y a une plateforme qui existe. Donc, c'est la plateforme moi-ess.org sur laquelle il faut juste se créer un compte et puis après inscrire un événement. Pour justement inscrire un événement, il est important de suivre un parcours bien déterminé, c'est-à-dire savoir quel sujet, donc que ce soit le sujet de la coopération du développement local, du réemploi, savoir quelle sera sa cible, car en fonction de sa cible, il faudra adapter un format bien précis. Donc quand on parlait de format, Alexandre le disait très bien, ça peut être un événement festif, une porte ouverte, une conférence. Donc tout ça sera déterminé bien évidemment en fonction du public cible. Une fois que tout ça est bien déterminé, bien inscrit au niveau de votre événement, vous pouvez le mettre sur la plateforme. L'événement sera validé par nos soins, donc par la CRES. Et puis après, on partagera votre événement, c'est-à-dire qu'on s'occupera, on fera une double, on relaiera du coup votre événement sur la plateforme, mais également sur nos réseaux sociaux. Ce qu'il est important de rajouter, c'est que quel que soit l'événement que vous allez inscrire, il sera important, il est très important de pouvoir prendre le temps de parler de l'ESS. Donc durant l'événement, expliquer ce qu'est l'ESS et pourquoi, en quoi vous faites partie de l'ESS, en quoi cette forme d'entreprendre, en quoi cette économie vous tient à cœur, en quoi vous êtes en lien avec ces valeurs-là. Car vraiment, le mois de l'ESS, c'est vraiment un moyen de mettre en avant en fait toutes les valeurs, tous les principes qui nous réunissent, pour que le grand public, ou même si ce sont vos adhérents, puissent recomprendre votre engagement envers du coup cette économie sociale et solidaire. À la fin du mois de l'ESS, donc le mois de l'ESS est bien sûr du 1er novembre au 30 novembre, mais il est bien sûr possible d'inscrire un événement tout au long du mois. Donc là, la plateforme, elle est ouverte depuis juillet, elle fermera le 31 novembre. À la fin de ce mois, vous recevrez du coup un questionnaire pour ceux qui se sont inscrits sur la plateforme pour pouvoir faire un peu un bilan de votre événement, savoir combien de personnes sont venues, savoir si vous avez eu le temps de parler de l'ESS, savoir si vous êtes satisfait de votre événement. Et puis nous, à la CRES, on organisera ensuite un webinaire avec les organisateurs des événements de l'ESS pour pouvoir dresser un peu un bilan du mois, pour savoir si nous, en termes de porte-parole de l'ESS, notre rôle a été du coup a été efficient, si on a pu vous aider, si on a pu vous orienter correctement, si vous avez bien pu inscrire du coup votre événement durant le mois de l'ESS, si les outils de communication notamment qu'on vous a partagés ont été efficaces, etc., etc. Donc voilà, nous en tant que CRES, on est là aussi pour accompagner les organisateurs. Donc n'hésitez pas à nous contacter en allant sur le site de la CRES pour pouvoir justement prendre contact directement avec nous afin qu'on puisse vous aider à créer, à mettre en place aussi un événement durant le mois de l'ESS. Ce qui est aussi important de noter, c'est que durant ce mois de l'ESS, il y a des thématiques, donc il y a des semaines thématiques. Donc je peux vous citer les 4 semaines thématiques de cette année. Donc la première semaine thématique sera la semaine de la finance solidaire, qui aura lieu du 13 au 20 novembre. Ensuite, il y aura la semaine européenne des réductions des déchets, qui aura lieu du 18 au 26 novembre. Il y a aussi la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, du 20 au 26 novembre. Et enfin, il y a les journées, donc 2 journées de l'économie autrement. Et ces 2 journées auront lieu les 24 et 25 novembre. Donc n'hésitez pas non plus, si vous avez voilà, un événement qui s'inscrit dans ces semaines-là, à le spécifier lors de votre inscription.
C'est des semaines qui sont organisées par qui, ces semaines-là? Est-ce que c'est la CRES qui organise ces semaines spécifiques, ou bien c'est des semaines nationales, en fait,
C'est des semaines nationales, étant donné que le mois de l'ESS est un mois qui est régi au niveau national par ESS France. Ce sont bien des semaines nationales et voire même, comme je l'ai dit, des semaines européennes.
D'accord. Alors, ça tombe bien puisque nous avons Bernard Monguillon avec nous. En fait, vous êtes directeur de Reconstruire Ensemble, une régie de quartier située à Chartres. Et vous, pour le mois de l'ESS, vous avez inscrit en effet votre 7e fête de la récup. Un rendez-vous gratuit, festif et familial autour du réemploi, le samedi 18 novembre de 10h à 17h à la salle des fêtes de Mainvilliers, voilà, dans l'Eure-et-Loire. La fête de la récup, c'est une institution chez vous. Vous faites ça depuis 2016. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de cette animation, s'il vous plaît, Bernard Monguillon?
Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Une précision, Reconstruire Ensemble n'est pas basé à Mainvilliers, n'est pas basé à Chartres, pardon, est basé à Mainvilliers.
Okay.
Voilà. Alors, la fête de la récup, en fait, elle a 7 ans d'existence. Elle a été créée en 2016. La première, effectivement, a eu lieu à Mainvilliers, mais c'est une manifestation tournante. Elle a lieu une fois sur trois à l'UC, une fois sur trois à Chartres, une fois sur trois à Mainvilliers. Voilà. Et elle est portée par les trois régies de quartier successivement qui l'organisent de façon tournante. Alors l'objectif de cette fête de la récup, c'est assez simple. C'est depuis le départ de regrouper dans un même lieu et à un même moment le maximum d'acteurs du territoire qui sont engagés dans le fait de donner une seconde vie. Alors que ce soit des objets, que ce soit des vêtements, que ce soit du tissu. Et le concept, il est très simple. C'est au lieu de jeter, afin de réduire nos déchets, comment est-ce qu'on peut changer nos pratiques au quotidien? Et donc, il y a quelques verbes qui commencent à rentrer de plus en plus dans le vocabulaire de tout le monde. C'est comment est-ce que je peux réparer, revendre, upcycler, relooker, détourner, croquer, recycler. Eh bien, ce jour-là, il y a... peut-être est-ce un hasard, mais en 2023, on a 23 acteurs locaux qui sont soit des associations, soit des institutions, comme des villes ou une communauté d'agglomération, soit des entreprises qui, en fait, proposent... Alors, le contenu, c'est plutôt 4 choses différentes. C'est des ateliers qui sont pour les enfants et pour les adultes, des ateliers de réparation partagés, autour du petit électroménager, de l'informatique, réparation partagée de vélos aussi, présence de réparateurs qui sont des entreprises qui sont engagées pour réparer, réparation partagée autour de la couture aussi, il y aura des ateliers autour de ce qu'on appelle « do it yourself », c'est-à-dire fabriquer de la lessive, on aura des ateliers autour du relooking de mobilier, fabrication de mosaïques, fabrication de petits mobiliers en carton également, il y aura un vélo smoothie pour faire des jus de fruits à partir d'un vélo. Donc ça, c'est les ateliers. Il y aura des stands de sensibilisation. Il y aura de la vente. Comme on est autour, proche de Noël, ce sera des jouets de Noël, essentiellement. Et puis, ce sera également un lieu où on collectera le pain, les bouchons plastiques et les cartouches d'encre à qui on redonnera une seconde vie.
Alors tout ça, c'est le 18 novembre de 10h à 17h à la salle des fêtes de Mainvilliers, la 7e fête de la récup que vous organisez cette année. Alors dans quel quartier de Mainvilliers se situe Reconstruire Ensemble? Alors comment se porte ce quartier en fait?
Alors en fait, Reconstruire Ensemble, c'est 4 cadres. Hein. C'est une association loi 1901, c'est une régie de quartier, un atelier, un chantier d'insertion, et on fait effectivement partie du monde de l'économie sociale et solidaire avec l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. On est basé à Mainvilliers, dans le quartier prioritaire ville qui s'appelle Bretagne. L'association est compte 130 salariés et on a en fait 3 activités si vous voulez. On a un pôle économique avec 8 activités différentes, dont des activités qui vont faire écho à l'ESS, comme la livraison en vélo cargo électrique de marchandises, une recyclerie solidaire et une filière autour de la collecte et de la valorisation des biodéchets. Là, il y a un pôle insertion autour de l'accompagnement et de la formation des salariés que nous sont recrutés à Reconstruire Ensemble. Et puis, il y a surtout un pôle citoyen, donc là, avec trois personnes, dont deux médiateurs sociaux, qui contribuent sur le quartier prioritaire à créer des services de proximité par les habitants, un point numérique CAF, par exemple, un café couture, un jardin potager solidaire. L'idée, c'est créer du lien social entre les personnes et d'améliorer la qualité de vie sur le quartier.
Et puis, en effet, c'est un pôle de transition professionnelle pour se reconstruire par le travail. Donc, vous offrez un parcours d'insertion socio-professionnelle pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi avec des formations, notamment des formations SST, permis B ou des formations autour de l'estime de soi, par exemple. Et puis, vous proposez à ces personnes un accompagnement professionnel personnalisé, c'est-à-dire en fait qu'on les suit de A à Z, en effet, dans leur réinsertion professionnelle. Comment vous travaillez justement avec 130 personnes, c'est ça? Il y a 130 salariés.
Oui.
Et comment vous arrivez à offrir un accompagnement personnel, en fait, à 130 personnes?
Eh ben, en fait, la spécificité des ateliers chantiers d'insertion, c'est d'avoir des personnes qui sont chargées de l'accompagnement social et professionnel dédié. En l'occurrence, à Reconstruire Ensemble, il y a 3 personnes. Et il y a un autre élément qui est important, c'est ce qu'il y a, à la différence des entreprises classiques, qu'on appelle un surencadrement. C'est-à-dire qu'on a un taux d'encadrement supérieur à ce qu'on trouve dans le monde marchand classique. Et donc, l'alliance entre le conseil socio-professionnel et l'encadrement technique permet effectivement la mise en place de cet accompagnement plus individualisé de nos salariés.
Alors, on le rappelle, hein, la fête de la récup, vous l'organisez cette année. C'est inscrit dans le mois de l'ESS, le mois de novembre. Et puis, il y a 23 acteurs autour du projet. En décembre, vous fêterez les 1 an de la recyclerie solidaire, le projet en fait que vous avez défendu pour le réemploi. Et puis, vous allez pouvoir mettre en place des bons d'équipement. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de cette action et qu'est-ce qu'elle constitue, en effet, pour les personnes en situation précaire?
Alors, rendons César ce qui n'est pas César. C'est-à-dire que le réseau des acteurs du réemploi qui regroupe plusieurs recycleries, plusieurs acteurs du réemploi sur le territoire de la région Centre-Val-de-Loire, en fait, a répondu à un appel à projet de la préfecture de région. Et donc, ils ont obtenu une subvention pour financer des bons d'équipement pour les personnes en situation de pauvreté, de précarité. Et donc, dans ce cadre-là, Reconstruire Ensemble a signé une convention avec le RAR, le réseau des acteurs du réemploi, ça s'appelle le RAR. Et donc, on va effectivement mettre prochainement en place cette convention. C'est tout simple. Autour de Reconstruire Ensemble, on va mettre en place un panel d'acteurs, de prescripteurs sociaux, de travailleurs sociaux qui nous diront, voilà, nous, on a repéré telle famille, telle personne, elle a besoin de ces bons d'équipement. Ces bons d'équipement, c'est un bon de 50 euros qui est donc financé par la préfecture de région. Et l'objectif, c'est que ce bon soit utilisé dans la recyclerie. Ce qui est intéressant parce qu'on voit bien qu'on incite effectivement ces personnes à d'abord utiliser le réemploi et à changer les pratiques.
Merci beaucoup, Bernard Monguillon. On le rappelle, vous êtes directeur de Reconstruire Ensemble. Alors, avec Alexandre, Bernard, si vous êtes toujours avec nous, tant mieux, et Manon, nous parlons du mois de l'ESS, début novembre jusqu'à fin novembre, hein, tout le mois, mais ça commence même avant, avec une conférence de presse qui lancera en fait ce mois de l'économie sociale et solidaire, le 25 octobre à l'auberge de jeunesse d'Orléans. Le lancement du mois de l'ESS, pardon, c'est l'occasion, en fait, Manon, de faire découvrir à tout le monde ce qui va se passer, en fait, durant ce mois-ci. Quels sont les événements qui sont inscrits en région et comment on les met en valeur. Et c'est aussi l'occasion de visiter un lieu, en fait, qui est l'auberge de jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ses partenaires?
Oui, c'est bien ça. Alors, chaque année, avant de commencer du coup le mois de l'ESS pour le lancement, pour pouvoir faire en sorte que le mois de l'ESS soit relayé auprès des médias locaux, on organise une conférence de presse. La conférence de presse est organisée en général dans une structure de l'ESS. Donc, ce n'est pas forcément une structure membre de la CRES, mais c'est vraiment une structure de l'ESS. Cette année, nous avons fait le choix de l'auberge de jeunesse, qui est sous le statut associatif. Pourquoi on le fait en général dans une structure de l'ESS ? Eh bien, tout simplement pour pouvoir valoriser les acteurs de l'ESS. Donc, en général, nous invitons les élus locaux, mais aussi la presse locale et les partenaires officiels régionaux du mois de l'ESS. Donc cette année, comme on l'a dit et redit, ça se passera à l'auberge de jeunesse d'Orléans. On aura l'occasion de visiter l'auberge de jeunesse d'Orléans, donc de mettre en avant en fait cette auberge de jeunesse, cet acteur. Et cette année, la particularité, c'est qu'on invitera aussi Vélio. Vélio, c'est un projet d'une association qui s'appelle Vélisolaire. En lien avec du coup la mobilité douce, donc pour faire voilà le rattachement, le lien avec notre objectif et notre stratégie 2025, qui est bien sûr d'aller vers des transitions, donc des transitions sociales mais aussi écologiques. Alors Vélio, sa particularité, c'est qu'elle fabrique des vélos solaires. Elle les fabrique pas elle-même, mais elle met à disposition en fait. Grâce à un fichier open source, des matériaux pour que du coup le client, le bénéficiaire puisse lui-même créer son vélo solaire. Donc à l'occasion de cette conférence de presse, nous visiterons non seulement l'auberge de jeunesse, mais nous aurons aussi l'occasion de faire aussi une démonstration avec deux vélos solaires pour qu'on puisse justement découvrir en fait la particularité de ces nouvelles méthodes de mobilité douce. Voilà, la conférence de presse aura lieu, comme l'a dit Viviane, le 25 octobre et aura lieu aussi à l'auberge de jeunesse. Les médias sont invités, bien évidemment, et à cette occasion, nous pourrons aussi diffuser notre dossier de presse dans lequel il y aura le programme de tous les événements du mois de l'ESS.
Et puis c'est l'occasion aussi pour les structures administratrices de la CRES en fait, de rencontrer le public et de justement faire la promotion des valeurs de l'ESS, des stratégies en effet qui sont mises en place, des grands défis en fait que vous allez relever. Hein, Alex ?
Oui. Alors oui, alors là on va prendre un peu la casquette effectivement du conseil d'administration. Donc c'est l'occasion pour les membres du CA de la CRES. Alors, on va faire simple, mais bon, la CRES elle est structurée autour de différents collèges d'adhérents. Hein. Il y a on rentre soit parce qu'on est, on représente plutôt les assos, plutôt les mutuelles, plutôt les coopératives.
On le rappelle, hein, la CRES c'est une chambre en fait.
Alors c'est la chambre régionale. Alors oui, alors s'il faut faire un micro,
une
peut-être
chambre,
rappeler, c'est la chambre régionale.
Représentatif voilà, en effet de
tous les acteurs de l'ESS, plus particulièrement depuis la loi Hamon, qui est la loi qui vraiment institue l'ESS, c'est-à-dire qui vient lui donner quasiment une définition légale, et surtout qui donne aux CRES le rôle de représenter l'économie sociale et solidaire en région centre. Les CRES existaient avant cette loi, enfin, presque toutes les régions, il y avait une CRES, mais c'était finalement qu'un simple regroupement associatif volontaire des acteurs de l'ESS qui servait déjà d'organes de représentation, mais ce n'était pas reconnu légalement. Maintenant, quand je dis reconnu légalement, c'est-à-dire que notamment les régions qui ont la politique économique dans leur mission, hein, c'est vraiment les régions qui portent les politiques économiques sur les territoires, ont obligation par la loi, à minima une fois tous les deux ans, de travailler avec les CRES sur la définition d'objectifs économiques pour l'économie sociale et solidaire et l'inscrire dans les différents schémas régionaux qu'ils construisent, qui en fait vont pendant plusieurs années décider des subventions, des orientations politiques, qu'est-ce qu'on construit, etc., qu'est-ce qu'on finance. Donc c'est vraiment la loi Hamon a vraiment reconnu le rôle et institué le rôle des CRES, et les CRES donc représentent toutes les familles de l'économie sociale et solidaire, c'est comme ça que nous on le dit, hein, c'est-à-dire les assos, les mutuelles, les fondations, mais aussi des acteurs un peu spécifiques de la finance solidaire ou de l'accompagnement, par exemple, comme France Active, et puis toutes les spécificités qui peuvent un petit peu régionalement d'organismes qui peuvent se créer. Et puis également les entreprises, alors il n'y a pas que parce qu'il y a les familles traditionnelles, mais il y a aussi des entreprises qui ont des statuts de l'économie marchande, on va dire, mais qui ont l'agrément ESUS, qui a été évoqué tout à l'heure d'ailleurs, parce que en fait elles sont certes structurées sous forme économique un peu plus classique, on va dire plus marchande, mais elles ont fait des choix forts dans leur statut notamment, de ne pas partager les bénéfices au-delà d'un certain montant, et ça reste en réserve. On a inscrit aussi statutairement le fait qu'il y avait des écarts de salaire importants possible entre le plus petit et le plus gros salaire. Donc finalement, qui se raccroche aux valeurs de l'économie sociale et qui se rapproche aussi avec une gouvernance plus démocratique de ce que sont les entreprises de l'ESS. Donc tout ça, la CRES les représente. Donc ce qui fait que c'est une grande diversité d'acteurs. Tout ça, ça constitue un conseil d'administration qui regroupe un petit peu les représentants de tout le monde. Donc on est très nombreux. Il y a des gens qui viennent un peu de toute la région. Et donc, pendant le mois de l'ESS, on essaye de se déplacer aussi, d'aller à la rencontre sur les événements, parce que c'est des événements qui peuvent être portés par des adhérents de la CRES, mais pas que. Hein, c'est vraiment l'idée, le message, hein, c'est bien ça aussi, attention. Hein, c'est tout le monde, tout acteur de l'ESS, ou qui fait partie de l'écosystème, comme tu le dis, Manon, c'est-à-dire des gens qui ont envie aussi de s'ouvrir ou de sensibiliser à. Tout le monde peut participer, hein, il n'y a pas besoin d'être adhérent. Donc, par contre, pour les administrateurs, c'est vrai que c'est l'occasion d'aller à la rencontre des acteurs, parfois d'acteurs non adhérents, donc c'est peut-être aussi l'occasion de leur expliquer ce que c'est la CRES, en quoi ça peut être peut-être sympa de rejoindre la CRES, hein, qu'il y a des gens gentils et tout, qu'on fait des super trucs, donc venez. Ça, c'est aussi l'idée, puis c'est aussi prendre un peu le pouls du territoire, comprendre ce qui s'y passe, dialoguer aussi avec les publics, les populations, enfin avec les gens qui sont présents, et parfois aussi d'expliquer même ce que sont la CRES, hein, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément très reconnu. Les gens peut-être des fois connaissent plus les chambres de commerce, les chambres d'agriculture. Alors même si on n'est pas vraiment des chambres consulaires au sens de ces chambres-là, mais on tend à s'en rapprocher, et puis on aimerait bien de plus en plus que ce soit comme ça aussi. C'est l'occasion aussi un petit peu d'expliquer ce que sont les CRES, les regroupements, etc. Et puis les enjeux qu'on porte, quoi, parce que c'est ça qui est important.
Alors, chaque année, un prix est remis à une initiative en région centre, le prix de l'économie sociale et solidaire. Oui. Est-ce que cette année, j'imagine qu'il y a déjà des candidats qui ont retenu votre attention, et puis également qui décide en fait, qui remet le prix, qui fait partie du jury pour déterminer justement qui a la plus belle initiative?
Alors oui, chaque année, il y a les prix de l'ESS. Donc encore une fois, c'est en lien avec le mois de l'ESS. C'est des prix qui sont premièrement régionaux et puis après nationaux. Donc en région centre, ce qu'on a pour habitude de faire, c'est de sélectionner un prix sur la thématique de la transition écologique et un autre prix sur la thématique de l'utilité sociale. Donc on sélectionne deux initiatives locales pour après les faire remonter au niveau national. Et au niveau national, il y aura encore une fois deux lauréats, dont un pour l'utilité sociale et l'autre pour la transition écologique. Alors cette année, nous avons reçu une dizaine de candidatures. Le prix régional sera remis le 24 novembre. Je peux malheureusement pas vous annoncer le nom du lauréat parce que ce serait un peu vous spoiler. Mais c'est important de mettre en avant justement ces belles initiatives au niveau local, les valoriser. Mettre la lumière sur eux pour encourager aussi d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire à faire comme eux et à aussi postuler, candidater pour le prix de l'ESS. Donc en termes de jury, qui peut faire partie du jury? C'est simple, ce sont en général les partenaires des prix de l'ESS et notamment les partenaires du mois de l'ESS. Donc cette année, c'était la Banque des Territoires, c'était la région, c'était la Caisse d'Épargne. Donc tous ces acteurs-là qui investissent du coup durant le mois de l'ESS et durant cette action qui est le prix de l'ESS, qui vont justement juger de l'action de ces initiatives-là. On aime aussi inviter d'autres membres de la CRES, comme par exemple l'URSCOP ou encore le mouvement associatif, pour qu'on puisse aussi avoir leur vision lors du jury des prix du mois de l'ESS.
Et qu'est-ce qui rentre en compte justement dans les critères qui sont définis pour sélectionner qui est le lauréat? Est-ce que c'est en effet comment on évalue une bonne prestation de transition énergétique ou bien d'égalité, de solidarité?
Eh bien, c'est une bonne question.
Je ne sais pas y répondre.
Non, non, pas du tout.
C'est compliqué, en effet.
C'est assez compliqué. Après, on a quand même une grille d'évaluation qui est plus ou moins précise. Je pense que le point le plus important, c'est l'impact territorial, c'est-à-dire le niveau d'utilité sociale du projet. Si c'est un projet qui est totalement hors sol et qui n'est pas adéquat avec le territoire dans lequel s'inscrit la structure, bien sûr que le projet ne sera pas retenu. Donc je pense que ce sera ça vraiment l'utilité sociale. Ensuite voilà, si c'est un projet qui est pérenne. Donc si c'est pas
Est-ce que les projets doivent forcément être innovants, en fait, c'est ça. C'est plus ça ma question.
Peut-être pour compléter, parce que on parle d'un prix, hein, donc il y a quelque chose qui a gagné. Il y a un peu de sous, mais c'est pas des dotations énormes financières. Donc l'enjeu premier, il est pas les gens ne candidatent pas, ou on n'est pas dans une dynamique de dire « Ah, je candidate parce que j'ai besoin d'un financement et donc ce prix va me permettre de financer une activité nouvelle que je lancerai, innovante, etc. » On est quand même plutôt dans quelque chose qui relève plus de la communication et de la transmission. Donc il y a à la fois l'évaluation de projet, donc ce que disait Manon sur la réalité de l'impact territorial. Voilà, mais il y a un côté en fait surtout d'un peu d'exemplarité du projet, c'est-à-dire en quoi finalement parmi tous ces projets qui nous sont présentés on a quelque chose qui est un petit peu exemplaire, significatif, qui peut servir, qui pourrait donner des idées aux autres, qui pourrait être dupliqué. Il y a la question de l'essaimage aussi, c'est-à-dire comment ces projets sont potentiellement répétables. Et aussi par contre là pour le coup plus directement pour le bénéficiaire, c'est-à-dire qu'on sait que bon, c'est pas une énorme somme d'argent qui va être mise sur la table pour pouvoir l'aider dans son projet, ça sera peut-être un petit plus. Mais le fait de leur donner le prix, c'est une mise en avant, c'est une mise en lumière, c'est un focus qui est donné sur eux et qui va peut-être parfois déclencher l'attention d'une collectivité territoriale, d'un autre financeur, d'un partenaire, en se disant « Ah bon, voilà ». Donc ça, on est un peu à la fois, il y a la grille qu'évoquait Manon qui est vraiment réelle, c'est-à-dire il y a des critères quand même à remplir, en quoi ils correspondent à certaines choses. Puis après, il y a l'idée de dire « Mais est-ce que mettre en avant ce projet ?» en quoi ça va signifier quelque chose, ça va communiquer quelque chose aussi au public, et puis peut-être simplement le fait de le sectionner, ça va les aider eux aussi à mieux le réaliser. Donc des fois c'est pas facile, hein, parce que j'ai déjà fait, pas forcément sur ça, mais sur d'autres types de jurys, parce qu'il y a d'autres prix qui sont donnés par d'autres institutions un petit peu dans la même veine. Bon oui, des fois on a des dossiers, on est là, on se dit mais lequel, parce que c'est assez, il y a des choses qui sont proches, pas qui se valent, mais on se dit oui là il y a des, alors bon après c'est quand même reste un concours, donc on essaie de trouver celui qui est le meilleur, c'est comme ça.
Et c'est pour ça qu'on parle d'initiative et non pas d'innovation, c'est vraiment l'initiative qui est mise en avant.
C'est pas toujours des choses qui sont nouvelles, innovantes.
Exactement.
Parfois ça peut être, il y a des projets qui sont récompensés sur des, où le fond du projet finalement c'est des choses qui peuvent déjà exister ailleurs sur le territoire ou en France, simplement la manière de le faire, l'endroit où ils sont, la pertinence, l'ancrage territorial qu'évoquait Manon, en disant là où ils sont, c'est important et qu'eux, ils portent cette initiative. Donc, c'est ça qu'on vient mettre en avant et récompenser.
Alors, par exemple, l'année dernière, les lauréats du prix ESS dans la catégorie transition écologique et énergétique, c'était la SCOP Atelier TAC, qui fabrique depuis 2012 des objets du mobilier, de la scénographie et des aménagements sur mesure, dans une démarche d'éco-conception, donc sur du réemploi, hein, au même titre que le fonds Reconstruire Ensemble, par exemple. Et puis, dans la catégorie utilité sociale, c'est l'association Val de Lire qui a été lauréate. L'association prévient l'illettrisme par des actions multiples et l'organisation du Salon du Livre Jeunesse Val de Lire annuel. Voilà ces deux lauréats. Et en effet, les prix ne sont pas mirobolants. En fait, c'est 2000 euros et un trophée. Mais ça permet en effet de se construire un réseau, une visibilité. C'est une opération de communication avant tout. Mais ça permet quand même d'asseoir son activité dans le territoire, dans la région, en effet. Et de la présenter aussi à des jurys qui peuvent apporter quelque chose de supplémentaire encore, quoi.
Oui, et puis les prix après sont remontés au niveau national et ils peuvent avoir l'opportunité, s'ils sont sélectionnés au niveau national, d'avoir aussi une visibilité au niveau national.
Ok. Et cette année, où sera remis ce prix de l'ESS, Manon? Est-ce que tu sais?
Alors, cette année, ni le prix ni le lieu n'est encore divulgué. Oui. Mais on fera une communication très bientôt, justement, à la conférence de presse. On attend la conférence de presse pour pouvoir divulguer un peu toutes ces informations-là. Donc, à partir du 25 octobre, je pourrai officiellement vous donner toutes ces informations.
Alors, on le rappelle, le mois de l'ESS, c'est le mois de novembre. Le lancement, c'est le 25 octobre à l'Auberge de jeunesse d'Orléans pour la presse en particulier.
On peut remettre l'accent sur le forum TE, donc le forum transition écologique et énergétique qui aura lieu au MOB le 9 novembre. Vous avez d'ailleurs fait une émission avec Edouard de Maresville qui est du coup au pilotage de cet événement, de ce bel événement qui aura pour objectif du coup de mettre en avant les solutions en termes de mobilité douce, parce que c'est la thématique principale de ce forum cette année, avec notamment un village des solutions qui accueillera différentes structures de l'ESS qui proposent des solutions concrètes en termes de mobilité douce. Ce forum sera aussi accompagné de conférences de presse avec notamment des élus régionaux, mais aussi des chercheurs pour parler de mobilité douce, que ce soit au niveau en termes de vie professionnelle, vie personnelle aussi. Et voilà, de pouvoir mettre en avant nos différentes manières de pouvoir se déplacer en ayant le moins d'impact possible. Voilà.
Très bien, je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler du mois de l'ESS. On le rappelle, il faut inscrire votre événement, structure de l'économie sociale et solidaire.
Sur la plateforme moi-ess.org. Et si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à me contacter directement.
Très bien, merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Et où qu'à comprendre pour vous, mais dis-moi. mon sillage laisse un teintement de verre. Je fais choir les miroirs et je rue dans la cavale. Je perds la mémoire mais je rends les réseaux excitables. Je nique des vocables, je nique du dispensable.
Beethoven sur numéro vert, Scrabble tout seul dans ma tête. Couche marron sur cauchemar blanc, mon compte triple. J'échange tous mes jetons, j'érige une statue hommage au spray coiffant et je claque la porte de mon appart. Syndrome sandwich, streaming Zidane, chrono fixé sur le cœur. Je m'inscris à un club spéléo. Autour de moi ça parle de lutte contre tout. J'avale ma sueur et touche mes heures sup. Syndrome RTT, streaming Hanouna, neurone kamikaze. Je perds la compète de jeu d'échecs, de l'écorce, de platane plantée dans mes dents qui raye le planche. Grad sticker cool, merci commercial. J'ai les yeux en poudre, collant me dit cadavre et l'eau qui tire. Arrosé par ma prose, alarmé par la dose. Un porc qui s'exporte dans un film gore de sex porn. Streaming Benzema, on ampute des kidam. On les traite de lâches, syndrome hôtel de ville. Streaming street art, rafiura fistolé. Jette mes rames à la mer, j'attends qu'on applaudisse. Streaming sitcom, syndrome zombie. J'en ai plein le trou, je voudrais vivre dedans. Faire sauter toutes les bagnoles, les banques, les horloges, les orties. Les grandes surfaces, raser des chasseurs. Syndrome pouvoir, streaming Lena.
On était fort. J'avais tort. On était barré. on était faim.